France Info.
Et à la une donc de ce 11 mars, une évasion a-t-elle été évitée à la prison ultra sécurisée des narcos de Vendin-le-Vieil ? Plusieurs personnes sont interrogées en ce moment, un avocat est même soupçonné d'être potentiellement un complice. À la une également la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis avaient promis hier la journée la plus dure, vous entendrez des Iraniens qui vivent au rythme des bombes. En Suisse, 6 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bus. Semble-t-il volontaire. Et puis le restaurant parisien triple étoilé Michelin depuis le plus longtemps, eh bien perd un de ses macarons. 42 personnes sont dans les bureaux des gendarmes, 42 personnes interpellées, soupçonnées d'appartenir à la DZ Mafia, le groupe criminel marseillais. Cette opération Octopus des forces de l'ordre a été annoncée hier et voilà une affaire dans l'affaire. Des policiers ont mis à jour un projet d'évasion d'un des 3 principaux chefs présumés de cette DZ Mafia et son avocat est suspecté également, Pierre de Cossette.
Pour les policiers marseillais, Gabi, comme il est surnommé, est tout sauf un inconnu. L'été dernier, il a été transféré à la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Mais rapidement, une drôle d'habitude a été détectée en cellule, celle d'appeler son avocat au téléphone en pleine nuit. Suffisamment étrange pour que les policiers creusent et s'aperçoivent que l'avocat en question renvoyait automatiquement l'appel vers des proches du détenu. En mettant la ligne sur écoute, les enquêteurs ont acquis la conviction il y a quelques semaines qu'un projet d'évasion se tramait. Quand ? Rien d'établi. Sauf que depuis quelques jours, Gabriel O, considéré comme l'un des éminents chefs de la DZ Mafia, a quitté Vendin-le-Vieil pour une prison du sud-est de la France en attendant son procès aux assises d'Aix-en-Provence dans 2 semaines dans une affaire de double assassinat. D'où l'interpellation en urgence avant-hier de 4 possibles complices. Le détenu et son avocat, eux, sont déjà en garde à vue dans l'autre dossier du moment qui vise le fonctionnement de la DZ Mafia.
Et les précisions de Pierre de Cossette sur France Info. L'Iran continue de répliquer. Sur tout le Moyen-Orient ce matin, les gardiens de la Révolution disent avoir ciblé une base américaine au Koweït. Des missiles ont aussi été tirés vers Israël, vers l'Arabie Saoudite, vers les Émirats Arabes Unis également, sans bilan pour le moment. Tout cela est une réplique aux frappes israélo-américaines qui se poursuivent. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, promettait pour hier le jour le plus intense de frappes depuis le début du conflit. Elles ont en tout cas été très nombreuses, Eric Biegala, avec des objectifs d'ailleurs différents entre les Américains et les Israéliens.
Oui, dans un premier temps, les Américains ont bombardé au missile et donc à distance tout ce qui ressemblait à un objectif fixe. Ils passent dorénavant à des frappes visant certains objectifs renforcés en utilisant plus largement l'aviation. Cela veut dire des bombardements lourds, mais pour cela, il va falloir s'aventurer au-dessus du territoire et nul ne semble connaître exactement les ressources antiaériennes mobiles des Iraniens. Celles-ci ont déjà abattu une dizaine de drones d'attaque américains. Côté israélien, cela semble un petit peu mieux rodé. Les Israéliens semblent avoir réduit au silence toute défense antiaérienne dans le nord-ouest de l'Iran. Ils s'attaquent dorénavant aussi aux infrastructures civiles de sécurité, commissariats, casernes des Basiji ou des gardiens de la Révolution, et annonçaient hier soir avoir réduit à néant toutes celles-ci dans la province d'Ilam, mitoyenne de l'Irak. Peut-être pour permettre une offensive au sol depuis l'Irak, ou pour aider à une révolution populaire en Iran qui pour le moment reste encore très hypothétique.
Merci Eric Biegala. Et face à ces bombes israéliennes et américaines, des cibles militaires évidemment, mais aussi des Iraniens qui vivent au rythme de ces frappes. Sandrine Etoa-Handek, vous avez recueilli le témoignage d'une étudiante iranienne.
Shirin, ses parents et son jeune frère ont fini par quitter leur domicile de Téhéran pour se réfugier chez un oncle et s'éloigner des bombardements incessants de jour comme de nuit.
À chaque fois qu'on entend une explosion, on est traversé par une vague d'espoir mêlée de peur, car on ne sait pas si ce qu'on entend, c'est une frappe sur un immeuble ou une bombe qui explose.
La télévision est allumée en permanence, les journaux d'État se concentrent sur les pertes humaines.
Des écoles, des hôpitaux, plusieurs zones résidentielles, des aéroports. Un stade ont été détruits. Dans ma ville, un enfant d'un an a été tué par le souffle d'une explosion alors qu'il jouait dans un parc. J'essaie de me distraire, je joue avec les enfants pour ne pas me laisser submerger par toutes ces émotions négatives.
Depuis le début du conflit, cette militante du mouvement Femme, Vie, Liberté se fait discrète.
Ceux qui critiquent le régime sont accusés de soutenir cette guerre et de menacer la sécurité nationale. Supprimer les opposants, c'est l'une des méthodes habituelles du pouvoir. pouvoir islamique.
Dont elle dit ne rien attendre et conclut « S'il servait à quelque chose, mon pays n'aurait pas été attaqué pour la deuxième fois en moins d'un an ».
Un témoignage recueilli par Sandrine Etoa-Andegue pour France Info. Il est 5h06, 2 mois et demi après l'incendie de Cran Montana. Un nouveau traumatisme en Suisse. Au moins 6 personnes sont mortes hier dans un bus qui s'est embrasé à une 20 km de Berne, la capitale helvétique. Un incendie potentiellement volontaire selon les enquêteurs, Jérémy Lanche.
C'est l'hypothèse privilégiée à ce stade par la police du canton de Fribourg où a eu lieu le drame. D'après un témoignage, une personne aurait utilisé un engin incendiaire pour mettre le feu au car sans que l'on sache quoi, ni même si cette personne était à bord. On dénombre par ailleurs plusieurs blessés, certains dans un état grave. L'un d'eux a dû être héliporté dans un centre pour grands brûlés. La zone où a eu lieu l'incendie est totalement bouclée. Les habitants sont priés de ne pas s'approcher des restes du bus calciné et dont les images ont circulé dans tous les médias du pays. La police a lancé un appel à témoins et ouvert une ligne téléphonique pour les familles des victimes. L'entreprise Carpostal, la plus grande entreprise de transport en commun par la route de Suisse et à qui appartient le bus, a elle mise en place une cellule de soutien psychologique.
Jérémy Lanche, le correspondant en Suisse de France Info. Une petite révolution au Royaume-Uni. Les pères héréditaires ne pourront plus siéger à la Chambre des Lords. C'est l'équivalent du Sénat outre-Manche. Jusqu'à maintenant, une centaine de membres n'étaient pas élus, mais héritaient de leurs fonctions, des ducs, des vicomtes, des comtes qui désormais ne pourront plus voter. Du football à suivre ce soir dans la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea pour le 8e de finale. Allez au Parc des Princes, c'est à 21h et c'est sur France Info. Un seul Français à suivre aujourd'hui aux Jeux Paralympiques de Milan-Cortina, Karl Tabouret en lice en paraski de fond pour le 10 km classique. Ce sera en fin de matinée, là aussi à suivre sur France Info. Hier, les tricolores ont remporté 3 nouvelles médailles. Le bronze pour Benjamin Davier en paraski de fond lui aussi. Et puis l'or et l'argent en paraski alpin dans le super combiné pour Aurélie Richard et Arthur Baucher. Lundi prochain, le guide Michelin dévoilera le nom des restaurants qui gagnent une étoile, dévoilera son palmarès complet, mais déjà des mauvaises nouvelles. On connaît le nom de ceux qui perdent des étoiles. Un seul restaurant passe de 3 à 2 étoiles, c'est l'Ambroisie à Paris, Victor Maté.
Une institution au cœur de la capitale, le plus ancien triple étoilé parisien, situé sur la très chic place des Vosges. La maison a changé de chef l'an dernier, Shintaro Awa, âgé de 40 ans, succédant à l'un des monstres sacrés de la cuisine française, Bernard Pacot, qui avait passé 4 décennies à la tête de l'Ambroisie. Autre rétrogradation remarquée, le Suquet à Laguiole en Aveyron. Il perd sa 2e étoile, situation assez particulière puisque le chef Sébastien Brasse ne voulait plus de cette distinction. Il avait même demandé et obtenu en 2018 de ne plus figuré dans le guide Michelin, avant d'y apparaître à nouveau à la surprise générale dès l'année suivante. Pour cette édition 2026, 17 restaurants perdent leur unique étoile. C'est le cas par exemple de la Mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape dans le département du Vaucluse. À noter que plus de la moitié des déclassements sont des changements de concept, de chef ou purement et simplement des fermetures.
Merci Victor. Maté à 5h09, c'est l'heure d'une météo petits oignons, hein, une météo étoilée, Christine Peña, même si bon, les nouvelles sont pas fofolles. Hein. Une journée bien perturbée nous attend.
Oui, perturbée avec ces pluies qui traversent le pays accompagnées de vent et puis cette baisse de température. Alors ce matin encore, il fait autour de 9-11 degrés. On a relativement doux pour la saison. C'est assez souvent hein, 9 à 11 degrés, un peu moins à l'intérieur du sud-ouest. C'est vrai, il fait 4 à Auch, Montauban, Périgueux contre 10 à Montpellier, Biscarrosse, Rennes, 11 à Paris, à Lille, à Lyon et cet après-midi il fera entre 11 et 15 au nord, donc ça baisse un peu. 14 dans la capitale, on a eu 17 hier après-midi. Et de 15 à 17, cette fois sur la moitié sud. Il est prévu 16 à Toulouse, à Marseille, 17 à Perpignan, Toulon et Bastia. Une pointe à 19 quand même pour Ajaccio.
Merci Christine Peña, 5h10.